Merci à un groupe de louanges. Merci à chacun d'avoir mis autant d'énergie et d'enthousiasme pour louer vraiment notre Seigneur. C'est vrai qu'il est ce Dieu, on se rappelait ce Dieu grand, ce Dieu qui a fait de grandes choses. Et nous sommes là, nous, là, sa créature, et nous sommes là ce matin pour venir aussi se souvenir et entendre aussi ce que la parole a à nous dire. Et on est donc au début de cette nouvelle année. Et je suis sûr que durant cette semaine, je ne sais pas s'il y en a qui ont repris le travail, mais vous avez eu l'occasion, je pense, à plusieurs reprises lors de salutations avec des personnes que vous croisez, de souhaiter finalement vos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et bien entendu, pour tous les gens que nous croisons, nous souhaitons et nous voulons pour nos proches et tous ceux que nous croisons le meilleur de ce que Dieu peut offrir. Nous tenons à leur souhaiter le bonheur, la santé, la réussite professionnelle, l'amour ou encore la prospérité. Car visiblement, si ces critères-là sont plus ou moins réunis globalement, a priori, c'est ce qui ferait, ce qui fera que l'année, la 2016, sera une bonne ou une mauvaise année. Alors ainsi, pour cette année écoulée, il y a un sondage qui a été réalisé par le journal La Croix et qui a donné un résultat que 81% donc des Français considèrent que cette année a été une mauvaise année pour la France. Alors il y a eu les attentats de Paris, il y a la guerre en Syrie, l'afflux des migrants, le chômage sont autant de raisons qui participent à cet aussi grand sentiment négatif. Donc l'interprétation qu'on pourrait tirer de ce résultat, c'est que, visiblement, les circonstances vécues influencent grandement notre impression de bonne ou de mauvaise année. Et donc, les sentiments aussi, comme le bonheur ou la satisfaction. En croire finalement le résultat, il y a eu 81% des Français qui ont été sensibles aux diverses circonstances difficiles, et c'est ce qui a influencé leur jugement. Alors, on entend quelquefois cette question lorsqu'il y a des catastrophes, des crimes ou des massacres horribles là qui se déroulent devant nos yeux. Cette question qui dit « Mais si Dieu existe, comment peut-il laisser toutes ces barbaries se faire ?» Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi se poser cette question et voir finalement le problème, si c'en est un, sur un autre angle ? Mais si Dieu nous a créés, pourquoi nous a-t-il rendus sensibles au bonheur et au malheur? Et là, je tiens de suite à vous rassurer. On a été créés à l'image de Dieu. Et grâce à ça, finalement, nous avons hérité de cette même sensibilité que lui au bonheur et au malheur. Et il y a plusieurs textes dans la Bible, finalement, qui nous éclairent sur le rôle de Dieu dans les circonstances de nos vies. Mais je voudrais en souligner un particulier, puis je voudrais revenir sur aussi, on viendra à la fin, sur ce psaume 23, et je voudrais que tout le long de, pendant que je vais vous parler, ce qui transparaît finalement dans ce psaume, dans les circonstances de nos vies, c'est la clé de nos vies, c'est la clé de notre relation que Dieu veut avec nous. Et ce texte, donc, c'est un texte qui est dans l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, c'est un livre qui a été écrit par Salomon. C'est ce grand roi qui était plein de sagesse, qui a grandi dans cette sagesse, qui a été enseigné par Dieu, qui a hérité d'une sagesse comme nul homme n'a eu. Et il a dit cette phrase simple, Ecclésiaste 7, verset 14, « Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. » Et Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Finalement, quelles que soient les situations, que ce soit nous qui les provoquions, ou qu'elles arrivent quand on ne s'y entend pas, ce n'est pas le fruit du hasard, tel que nous l'imaginons. Mais c'est le fruit du hasard avec un grand D, D comme Dieu. C'est bien Dieu qui fait les jours de bonheur et les jours de malheur. Mais je veux préciser que ce n'est pas parce que c'est lui qui les fait que c'est lui qui les organise. Dieu permet tout autant le bonheur que, comme le malheur. Et pourquoi finalement fait-il tout ça? Afin, Ecclésiaste, la sagesse que Dieu a donnée à Salomon dit, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. En d'autres termes, ça veut dire que Dieu ne permet pas aux hommes de décider de leur avenir, et plus particulièrement des jours de joie comme des jours de malheur. Même finalement avec toutes les précautions, les protections imaginables que l'homme a le pouvoir de faire, il n'est pas possible d'organiser sa vie pour qu'elle ne soit que bonheur en se mettant à l'abri du malheur. Et moi je rajouterai finalement, heureusement que c'est comme ça, parce que finalement c'est Dieu qui a le dernier mot. Car à n'en pas douter, si cela était possible, moi je pense que nous choisirions ici, on ferait un sondage, 100% choisirait, s'il en avait la possibilité, des jours de bonheur. Mais dans ce monde que nous connaissons, comment satisfaire tout le monde finalement sans faire de déçus? Comment faire du bonheur sans du malheur? L'équation, dans cette situation actuelle, elle est impossible à résoudre. Et donc Dieu a doté les hommes de sensibilité et d'intelligence et fait les jours de bonheur pour qu'ils soient heureux et les jours de malheur pour qu'ils réfléchissent. Le Dieu de la Bible ne nous encourage pas à accepter les circonstances avec fatalité, mais à vivre pleinement ces jours qui sont si contrastés là. Au jour du bonheur, et il y en a aussi, sois heureux. Cela semble simple comme ça, mais quand nous sommes heureux, ben, cela se voit. On a la banane. Moi, j'avais encore envie de prier ce matin. J'étais dans la joie d'être avec vous, de chanter ces chants et de voir le plan de Dieu, là, qui, pour cette année, sa fidélité, sa présence, son amour, tout ça qui est pour moi, qui est pour nous. Et j'étais dans la joie. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un jour particulier de joie. Et je souhaite que ce soit pour vous aussi, ce soit un moment de joie. Et donc forcément, quand on a la banane, on a envie de partager son bonheur. On a envie de dire merci à Dieu et de le louer pour son bonheur. Mais ça, c'est peut-être facile à dire toujours. Mais est-ce que vous ne connaissez pas des fois des gens qui ont tout pour être heureux? Tout pour être heureux au sens du bonheur qu'il y a sur cette terre, mais pourtant qui sont grincheux, qui sont tristes. Et là, il y a dans ces deux mots, sois heureux, dans ces deux mots, sois heureux. Plus que l'idée d'accepter avec fatalité les jours de bonheur, mais plutôt aller vivre pleinement. Conscients de ce qu'ils sont et reconnaissant à Dieu vraiment de nous les avoir donnés. La suite de ce passage, c'est au jour du malheur. Et ça, il y en a aussi. Il y en a peut-être certainement trop. Et la logique humaine dirait finalement, ben, au jour du bonheur, soit heureux, au jour du malheur, soit triste. Non. La sagesse de Dieu dit, au jour du malheur, réfléchis. Ça, c'est le conseil de Dieu. Et cette idée, finalement, de refuser la fatalité aussi dans les jours de malheur, elle est importante. Dieu ne nous a pas créés pour être des robots qui sont insensibles, des robots qui sont condamnés à subir les aléas de la vie. Par les circonstances, finalement, délicates que nous pouvons traverser, ben, Dieu veut nous pousser vraiment à la réflexion. Il veut, et tout ça, pourquoi? Pour nous encourager à revenir vers lui. Notre Dieu a du mal à accepter l'indifférence des hommes à son écart. Après tout, il est leur créateur. Il veut que tous les hommes soient sensibles à son amour. Et face à cette indifférence des hommes, ben Dieu se sent offensé. Comme nous, on peut être offensé. Créé à son image, Dieu se sent offensé quand ses enfants, quand sa créature ne fait pas égard à lui. Et ça, tout bon père le reçoit, le ressent quand il est face à la désobéissance ou à l'ingratitude de ses enfants. Mais Dieu, comme la plupart des bons pères, a dans sa nature le besoin de répondre aux attentes de ceux qu'il aime, même si ce n'est pas ce qu'il avait imaginé. Peut-être vous avez déjà entendu cette histoire de la parabole du fils prodigue. ou du fils perdu que Jésus a raconté justement pour témoigner de l'attitude d'amour de Dieu, cette image d'amour de Dieu le Père qu'il a envers tous les hommes. Et cette histoire, c'est l'histoire d'un homme qui est certainement riche et qui avait deux fils. Et le plus jeune a demandé sa part de l'héritage. Et le père, dans son besoin de répondre aux attentes de celui qu'il aimait, a donc fait le partage comme il voulait. Et le fils cadet, une fois qu'il avait tout son argent en poche, il est parti loin de son père. Il est parti dilapider tous ses biens, et puis finalement pour vivre dans la débauche. Et pendant tout ce temps, chaque jour, le père attendait pour voir si son fils perdu allait revenir. Et une fois que le fils avait tout dépensé, que tous les jours de bonheur, les jours de plaisir, étaient passés, ces jours de plaisir-là ont fait place à des jours de malheur. Il y a eu la famine, il y a eu la faim, il y a eu la misère qui se sont succédées et rendant sa vie finalement impossible. Et c'est à ce moment-là, dans un éclair de lucidité, le texte de l'Évangile nous dit il est rentré en lui-même, comme pour dire qu'il a réfléchi vraiment profondément. Et en se mettant à réfléchir, il a réfléchi à l'abondance qu'il y avait chez son père. Il s'est souvenu qu'il était en train de passer à côté de cette abondance que tous les serviteurs du père avaient, eux. Et il pensait à ses serviteurs qui, eux, vivaient dans cette abondance. Et réfléchissant encore plus, il a réalisé que son père était toujours là. Le père était toujours là, certainement qu'il attendait. Et malgré le fait qu'il ne soit plus digne d'être appelé comme son fils, il s'est décidé à retourner voir son père. Et le père, donc, alors qu'il continue à veiller, il reconnaît son fils qui vient sur le chemin de loin. Et qu'est-ce qu'il fait? Il quitte la maison, il quitte ses serviteurs et il se jette à son cou pour l'embrasser. Et le fils, devant cet amour, il confesse qu'il n'est plus digne d'être appelé son fils. Mais néanmoins, le plus touchant dans l'histoire, c'est pour la fin. Ça, c'est une œuvre de Rembrandt qui essaye d'imaginer cet amour du père et l'honte un peu du fils. Et ces paroles belles du père qui dit « Mangeons et réjouissons-nous ». Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Oui, c'est une histoire touchante. Et ça, c'est Jésus lui-même qui a voulu nous la laisser, pour nous faire connaître, par cette image du Père, quelle passion Dieu le Père a pour tous les hommes, quelles que soient leurs conditions. Comme ce plus jeune fils, les hommes ont tendance à vouloir leur indépendance vis-à-vis de Dieu. Une fois l'héritage de la vie reçu, bien souvent, l'objectif est de profiter au maximum des plaisirs qu'elle procure, sans se soucier de celui qui donne la vie. Le souci, justement, c'est que cette indépendance crée un tel éloignement de Dieu que finalement, au fil du temps, on arrive à oublier qui est Dieu. Et beaucoup trop, finalement, dans notre société moderne, ont oublié qui est Dieu. Et l'éloignement accroît cela et accentue les idées fausses que nous avons de Dieu lui-même. On connaît bien ce dicton qui dit « loin des yeux, loin du cœur ». Et cela est valable aussi vis-à-vis de nous, pour Dieu. Mais par contre, pour Dieu, lui, il n'est jamais bien loin. Et puisque Dieu n'est jamais trop loin, il pourrait intervenir. Il pourrait arrêter ce processus d'éloignement. Mais Dieu se fait un point d'honneur à ne pas intervenir contre la volonté des hommes. Si les hommes ne veulent pas de Dieu dans leur vie, il les laisse aller, mener leur vie comme on leur semble. Mais Dieu n'est pas loin. Et Dieu, néanmoins, fait les jours de bonheur et les jours de malheur. Et heureusement, car s'il y a des jours de bonheur pour se réjouir, il y a des jours de malheur pour réfléchir sur son éloignement de Dieu. Et l'objectif de cette réflexion et bien sûr de nous revenir vers lui. En effet, quand les circonstances de la vie se font plus difficiles, où les jours de bonheur laissent place aux jours de malheur, que faire? Accepter cela avec fatalité? Chercher à savoir que sera l'avenir? C'est impossible. Ou encore sombrer dans le découragement? Bien sûr que non. Jésus lui-même, le sauveur du monde, par cette histoire de la vie, montre que la clé est d'oser revenir vers Dieu. Oui, ce fils cadet était tombé bien bas, mais il a saisi l'importance. Il s'est souvenu de son père et c'est ce qu'il a décidé, à revenir vers Dieu. Et puis par cette histoire, il y a aussi un autre beau et extraordinaire message que Jésus nous laisse, c'est celui qui nous aide à comprendre l'attitude de Dieu. Jésus nous apprend que le Père guette le retour de son fils perdu. Dieu attend impatiemment le retour de tous ceux qui se sont éloignés. Non pas pour leur faire des reproches, pour les condamner, mais pour les accueillir et se réjouir de leur retour. L'enfant découragé se présente à son père, honteux. Il se présente là, indigne d'être appelé son fils. Mais le père, on a l'impression que dans le texte, il ne le laisse même pas finir se confesser. Il s'empresse de lui pardonner, de le serrer dans ses bras, et il demande même à serviteur d'amener des nouveaux habits. Notre Dieu est impatient de voir tous ceux qui sont loin de lui se rapprocher. Et ça, c'est une invitation que Dieu transmet à tout homme, à toute femme. Et pour relier cette invitation, Dieu a envoyé comme messager Jésus, son propre fils. C'est lui qui, par cette histoire-là, nous révèle la puissance de l'amour de Dieu. Jésus ne veut forcer personne. Simplement que chaque humain entreprenne sereinement une démarche de retour vers son Père. Et lui, il se propose comme en étant finalement le moyen de ce retour. Jésus, vous savez, connaît très bien la dureté de la vie et quelle est son issue sur cette terre. Puisque lui, sur cette terre, il a été sévèrement jugé, il a été condamné, il a souffert la mort de la croix. Alors qu'il était simplement venu sur la terre pour manifester cet amour du Père. La vie sur cette terre, elle est dure, on ne peut pas se cacher les yeux, elle est difficile. Et le Seigneur Jésus le connaît très bien. Et au-delà de cette vie faite de bonheur et de malheur, Jésus surtout, Jésus veut nous épargner l'horreur de l'éloignement éternel de Dieu. Et voilà pourquoi il insiste. Pourquoi il insiste? Pour que nous reconnaissions notre erreur et notre entêtement à ne pas vouloir de Dieu. Et pour enfin que nous approchions de lui. Vous posez peut-être maintenant la question, qu'est-ce qu'il y a à gagner là, immédiatement, à revenir vers notre Dieu? Et là aussi, cette histoire nous donne une idée. Là, je reste qu'à l'histoire, mais je pourrais vous donner des témoignages de ma vie, où moi, j'ai vu l'intérêt probant, net et clair de la présence de Dieu, de son abondance, de ses grâces, de sa fidélité. Et c'est pour ça que moi j'ai de la joie à venir ici le dimanche. Tout simplement pour me rappeler ça. Et je sais que dans l'Église, mes frères et sœurs le vivent aussi. Et partager ces jours de joie, et malgré des fois des difficultés, parce que c'est là qu'on voit la fidélité de Dieu. Mais là, dans cette histoire, qu'est-ce qu'on voit? À proximité du Père, il y a l'abondance, il y a la protection, et surtout il y a la paix. Rappelez-vous maintenant le psaume 23 là, que Pierrick a affiché et nous a lu. Dieu nous fait reposer dans de verts pâturages. Il nous dirige près des eaux paisibles. Tout ça, c'est les jours de joie, les jours de bonheur. Tout va bien dans la vie. Mais c'est Dieu qui fait ces jours-là. Mais il y a aussi des jours où on marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Et là, cette proximité de Dieu, cette proximité du Père fait que je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Tout ça, c'est ma vie, c'est ce que je ressens. Et des fois, c'est vrai qu'on est découragé, on a du mal à voir que le soleil est là, quand il y a la pluie qui est forte. Mais je crois qu'au-delà de la pluie, il y a le soleil, et que au-delà de mes misères, il y a Dieu qui est tout souverain. Donc moi, nous voilà donc au début de cette année. Tu peux afficher le calendrier. On ne peut pas découvrir à l'avance de quoi seront faits ces jours. Donc il y a certainement des jours de bonheur, j'en ai mis un peu plus, c'est les jours verts là. Je vous souhaite vraiment qu'il y en ait plus. Il y aura peut-être des jours rouges, des jours de malheur. On ne peut pas savoir ça. Personne ne peut savoir. Il y en a qui cherchent, hein. Il y en a qui vont voir des devins, ainsi de suite. Attention à ça, je veux vite faire une parenthèse. Les gens ne peuvent pas savoir. Au pire, ce qu'ils vous font, ils vous maudissent. Et les jours de bonheur, ils essayent d'invoquer des esprits, ou indirectement, c'est le diable qui va faire réaliser leurs projets, s'ils sont plus ou moins puissants. N'allez pas voir ces gens-là. N'allez pas chercher les jours qui vont suivre. Ce n'est pas en notre pouvoir. Donc dans chacun de ces jours, que ferons-nous? Que ferons-nous dans ces différentes circonstances? Désormais, vous connaissez ce que Dieu attend de vous. Pourquoi finalement attendre des jours de malheur pour réfléchir et faire le choix de revenir vers Dieu? Ce matin, vous êtes invités à vous rapprocher de Dieu. C'est vraiment un appel que vous devez prendre vraiment très au sérieux. Car la décision, là, que vous prendrez, elle engage votre éternité. Le plan de Dieu pour votre vie, c'est le bonheur. Attention, Dieu ne nous dit pas qu'il n'y aura pas des jours de malheur. Mais son message puissant, fait de promesses tenues, nous dit que même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car Dieu est avec moi. Le Père est avec moi. Et pour en avoir fait l'expérience encore vraiment de façon concrète durant l'année écoulée, ben je peux vous dire que cette présence-là, c'est ça qui change la donne. Tu peux afficher le calendrier suivant? Voilà le projet de Dieu pour notre année 2016. Vous y croyez? Moi, j'y crois. C'est la réalité. Que serviraient ces textes que nous avons lus? Ce psaume 23, c'est du vent? Les promesses de Dieu sont du vent? C'est la réalité, ça. Mais oui, il y aura peut-être des difficultés encore. Les jours rouges seront dessous. Mais je vous laisse, pour finir, tu mets la suite. Comment un peu fini ce psaume 23? Et c'est encore une promesse puissante qui nous dit que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, pas seulement de la calendrier 2016, mais tous les jours de ma vie. Et comme ce fils perdu, comme ce fils qui est revenu, ben maintenant je peux habiter, j'habiterai dans la maison de mon Père jusqu'à la fin de mes jours. Alors pour cette année, tous ces jours verts de bonheur, n'oublie pas ton Dieu. Réjouis-toi, sois dans la joie, loue-le. Il y a certainement des jours de malheur où tu n'auras pas le cœur à louer. Alors réfléchis. Pense à la proximité de Dieu, là, qui est tout près. De sa présence, de sa vie, qui peut faire, finalement, que malgré cela, eh bien, tous les voyants soient ouverts. Voilà, finalement, un peu, en ce début d'année, ce que je peux vous souhaiter, et sans prétention aucune. Je pense que c'est aussi ce que Dieu vous souhaite à chacun. Il souhaite vous accompagner chacun, chaque jour de votre vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de mon Père jusqu'à la fin de mes jours. Proclamons ça encore aujourd'hui. Je vous laisse juste quelques temps dans la réflexion et puis je prierai et je prendrai le temps de faire des blancs pour que ceux qui veulent prier après, avec mes mots, le fassent pour revenir à Dieu, pour s'engager à sa suite. Ah oui, notre Père, mon Père. Vraiment, quel bonheur de pouvoir partager ce moment de joie avec mes frères et sœurs, avec ceux qui sont là, Seigneur, dans cette église, qui sont là ce matin. Parce que tu as vu aussi, nous voyons ta fidélité tout le long de cette année, Seigneur. Oui, merci Père pour ton amour, merci pour ta patience envers moi. Merci Père, parce que tu as toujours gardé cette patience pour moi et tu as veillé à ce que je revienne. Merci Père, parce que tu m'as attendu. Et maintenant tu me vois Père. Moi je veux revenir vers toi. Je veux réfléchir. Je veux réfléchir pour revenir vers toi. Et ce matin, Père, j'entrevois l'abondance qu'il y a près de toi. J'entrevois la paix. J'entrevois le pardon que tu veux m'offrir. Oui, Père, je te demande pardon de mon éloignement. Père, tu vois, je veux m'avancer vers toi. Viens m'accueillir. Oui, je vois ces habits que tu as préparés pour moi. Je vois ta présence tous les jours. Je vois chacun de ces jours de cette année. Et Père, oui, qu'il soit ouvert malgré les circonstances. Père, je veux te remercier de ce que tu m'écoutes. Père, je veux ne pas t'oublier quand je serai dans la joie et je veux t'oublier, je veux te louer, je veux t'adorer pour ce que tu es. Amen.
Bonjour, je partage avec vous les annonces pour la semaine et puis un petit peu plus loin aussi. Alors pour tout de suite après le culte, on aura un apéritif qui va se dérouler au fond de la salle. Alors si quelques personnes veulent bien donner un petit coup de main, on va enlever les chaises qui sont au fond, dans la partie plus petite, et puis pour faire un petit peu de place pour qu'on soit à l'aise pour partager ce moment sympa entre nous. Demain après-midi, le Femme Club va se réunir chez Rebecca, comme d'habitude. Mardi, les cellules. Alors la cellule de Gex se réunit chez Didier et Loredane. La cellule de Prefsaint chez Manu et Rebecca. Pour la cellule de Collonges, Farge et Perron. Oui, voilà. Donc, vous regarderez bien vos emails ces prochains jours. Dimanche prochain, on vous invite à venir un petit peu plus tôt que l'heure du culte pour partager un thé-café, un moment convivial entre nous. Dans les mois qui vont suivre, on prépare un survol de la Bible qui aura lieu les premiers samedis matin, juste le matin, pour les mois de février à mai. On vous en reparlera, mais vous pouvez déjà réserver ces moments-là. On aura aussi un culte de baptême le 6 mars. Et puis le club d'été, comme chaque année, ces dernières années, le club d'été est déjà fixé. C'est donc la semaine du 11 au 15 juillet. C'est important aussi de réserver ces dates, peut-être aussi pour les vacances et les congés. Des nouvelles d'Annelise. Annelise a été opérée mardi d'une greffe de peau suite à un problème de cicatrisation. Voilà, avec l'âge, les opérations, c'est pas toujours simple, ça va pas toujours comme on veut ou comme les médecins voudraient. Alors les médecins étaient assez réservés quant à la réussite de la greffe, parce que voilà, c'est pas simple. Ils pensaient pouvoir, ils se sont donné une dizaine de jours pour voir si la greffe allait bien se faire. Et donc, on a reçu un message d'Annelise hier, comme quoi la greffe a réussi. Et donc, c'est vraiment chouette, c'est vraiment une réponse aux prières d'Annelise. Alors, Annelise est encore hospitalisée pour environ 2 semaines, donc à l'hôpital de la Tour. Donc, elle peut recevoir des visites, des téléphones. N'hésitez pas à la contacter, ça lui fait toujours plaisir. Et ça l'encourage aussi. Alors, il nous reste des calendriers de 2016. Alors, on vous propose on les met à disposition, à une condition, attention. On les met à disposition à condition qu'ils soient utilisés, c'est-à-dire soit que vous les utilisez, ou bien que vous les donnez à quelqu'un qui va l'utiliser. Voilà, donc vous pourrez aller vers Anne-Marie tout à l'heure au fond de la salle. Cette semaine, on vous invite à prier pour les chrétiens qui sont persécutés, les chrétiens qui vivent en Érythrée. Voilà, c'est important de penser aussi à nos frères et sœurs qui vivent des temps difficiles dans des pays dans lesquels il n'y a pas la liberté de la foi, comme on l'a dans notre pays. Si rien n'a été oublié, je vous invite à vous lever. Et je vous partage encore 2 versets. Oui.
Juste pour dire que le dépôt de Noël va repartir.
Oui. D'accord, donc, ouais.
Ouais.
Voilà, donc le dépôt de Noël qui est arrivé un petit peu avant Noël va repartir, donc il est encore là ce dimanche et dimanche prochain, et puis ensuite terminé. Donc n'hésitez pas à acheter ce que vous souhaitez. Je vous lis encore 2 derniers versets qui vont dans le sens de ce qu'on a entendu ce matin. Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis grâce au sang d'une alliance éternelle. Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche. Bonne semaine.